Champagnac, le surintendant Fouquet. Le procès du surintendant Fouquet est un des événements les plus curieux et les plus intéressants du règne de Louis XIV. Sa perte fut tramée avec une perfidie si odieuse, et la conduite de ses ennemis, dont plusieurs siégèrent parmi ses juges, fut si passionnée qu'on s'intéresserait à l'infortune de Fouquet quand même il eût été plus coupable qu'il ne l'était réellement. L'origine de sa catastrophe remonte au temps où Colbert commença à travailler secrètement avec le roi. Sa perte était déjà résolue lorsque le roi accepta la fête magnifique que ce ministre lui donna dans sa superbe maison de Vaux. Cette fête ne servit qu'à irriter davantage encore le monarque contre lui. Les ennemis du surintendant firent remarquer au prince tout ce qu'il y avait d'ambitieux dans la devise de Fouquet. C'était un écureuil avec ces mots « Quo non ascendam, où ne monterai-je point ?» Les courtisans ne manquèrent pas non plus de faire observer que l'écureuil était représenté partout, poursuivi par une couleuvre, qui étaient les armes de Colbert. Ces réflexions pleines de malignité, ces mots latins que Louis XIV se vit expliquer, décidèrent du sort de Fouquet. Une autre cause secrète du ressentiment du roi, et peut-être la plus redoutable, c'est que Mademoiselle de la Vallière, qu'il aimait déjà éperdument, avait été pendant quelque temps l'objet des poursuites amoureuses du surintendant qui n'avait rien négligé pour en faire la conquête. Il avait même fait l'offre de 200 000 livres à la Mademoiselle de la Vallière, qu'il avait repoussée avec toute l'indignation de la vertu. Plus tard, le surintendant, s'étant aperçu que le roi était son rival préféré, avait voulu être le confident de celle dont il ne pouvait être l'amant. Le roi, instruit de toutes ces particularités, avait fini par concevoir une haine mortelle pour Fouquet. Louis XIV, dans un premier mouvement de colère et d'indignation, avait été tenté de faire arrêter le surintendant au milieu même de la fête splendide dont on vient de parler. Mais au lieu de faire un éclat, il aima mieux recourir à la dissimulation. Fouquet était procureur général du Parlement, et cette charge lui donnait le privilège d'être jugé par les chambres assemblées. Colbert, par une adresse peu honorable, l'amena à Lavrandre. Le surintendant y consentit et eut la générosité de faire porter à l'épargne les cadres en 100 000 francs que cette vente lui procura. Cette belle action ne le sauva pas. Toutefois, et sans doute pour mieux assurer l'exécution de son dessein, le roi le combla de caresses avant sa disgrâce. Charles IX en avait agi de même à l'égard de Coligny et son successeur à l'égard du duc de Guise. « Je ne sais, dit Voltaire, pourquoi la plupart des princes affectent d'ordinaire de tromper par de fausses bontés ceux de leurs sujets qu'ils veulent perdre. La dissimulation est alors l'opposé de la grandeur. Elle n'est jamais une vertu et ne peut devenir un talent estimable que quand elle est absolument nécessaire. Louis XIV parut sortir de son caractère, mais on lui avait fait entendre que Fouquet faisait de grandes fortifications à Belle-Île et qu'il pouvait avoir trop de liaisons au dehors et au dedans du royaume. La cour prit donc des mesures pour arrêter Fouquet d'une manière sûre au moment même où il s'y attendrait le moins. Les États que l'on tenait en Bretagne favorisèrent ce projet. Le roi s'y rendit sur la fin du mois d'août 1661, prétendant que sa présence était nécessaire, et toute la cour le suivit. Le surintendant fit aussi de ce voyage comme étant un des premiers ministres du Conseil et ayant le plus à voir dans les délibérations de cette assemblée. Le roi s'était fait accompagner du vicomte de Turenne, comme s'il eût eu besoin de ses conseils contre quelque soulèvement. Cette mesure inaccoutumée aurait dû faire ouvrir les yeux au surintendant, mais soit fatalité, soit conviction de son innocence, il ne parut point s'en inquiéter. Il se rendit donc en Bretagne. Il fut arrêté sans bruit à Nantes le 5 septembre. On s'assura de lui comme d'un criminel d'État. Il fut conduit à Paris où des ordres furent donnés pour son procès, qui lui fut fait par commissaire. Une particularité assez singulière du procès de Fouquet, c'est qu'il se méprit tellement sur les dispositions de ses juges à son égard que quand il fallut nommer les rapporteurs, Madame Fouquet, sa mère, pria le premier président de Lamoignon de donner l'exclusion à d'Ormesson, qui se vit tant d'honneur dans cette affaire par sa courageuse indulgence envers Fouquet. Elle demanda aussi l'exclusion pour Sainte-Hélène, conseiller au Parlement de Rouen. En ce point, elle rencontra mieux, car Sainte-Hélène fut un de ceux qui conclurent la mort de l'accusé. On sut sans doute à la cour que Madame Fouquet avait demandé l'exclusion de ces deux juges, et ce fut pour les ministres un mot de plus pour les maintenir. Le roi manda le premier président et lui dit de nommer pour rapporteur Messieurs d'Ormesson et Sainte-Hélène. Le premier président légua la prière de la mère de l'accusé. Ce sont, dit-il, les deux seuls qu'elle est exclue. Elle craint, répliqua le roi, l'intégrité connue de ces deux magistrats, et cette crainte est une raison de plus pour les nommer. Le premier président convint de leur intégrité, mais il représenta que, comme il s'était fait une loi de ne jamais donner aux partis les rapporteurs qu'elles demandaient, il s'en était aussi fait une de ne leur jamais donner ce qu'elles excluaient. Que l'accusé, dit d'abord le roi, fort bien instruit par ses ministres, propose ses moyens de récusation, la Chambre en jugera. Et il finit par ordonner qu'on conservât les deux exclus. Le premier président pria le roi de prendre du temps pour faire ses réflexions avant de lui donner ses derniers ordres. Le roi assura que ses réflexions étaient faites et que sa volonté sur cet article serait immuable. Le premier président fit des reproches sur cette violence à Colbert et à Le Tellier, dont Turenne disait au sujet de ce procès « Bon, M. de Colbert a plus d'envie que M. Fouquet soit pendu et que M. Le Tellier plus de peur qu'il ne le soit pas. » Colbert et Le Tellier se montrèrent dans tout ce procès ennemis implacables de Fouquet. Le chancelier Séguier, président de la commission, fut celui des juges de Fouquet qui poursuivit sa mort avec le plus d'acharnement et qui le traita avec le plus de dureté. Dans les nombreux interrogatoires qu'il eut à subir, Fouquet montra autant de noblesse et de fermeté dans sa contenance que de justesse et de force dans ses réponses. Plusieurs fois, il embarrassa et confondit ses juges. Le point où il était le plus vulnérable était l'article des finances. Mais sur cet article même, on avait bien moins de reproches à lui faire qu'au cardinal Mazarin. Faire le procès au surintendant, c'était accuser la mémoire de son prédécesseur, qui s'était approprié en souverain plusieurs branches du revenu de l'État, et qui s'était permis les plus grandes dilapidations. Les juges se retranchèrent sur un projet vague de résistance et de fuite dans les pays étrangers, projet que Fouquet avait jeté sur le papier 15 ans auparavant, lorsque la Fronde divisa la France et qu'il croyait avoir à se plaindre de la gratitude de Mazarin. Cet écrit, qu'il avait entièrement oublié, s'était trouvé dans ses papiers et parmi ceux qu'il destinait au feu. « Vous ne pouvez nier, lui dit le chancelier, que ce projet ne soit un crime d'État. »« Je confesse, répondit Fouquet, que c'est une folie et une extravagance, mais non pas un crime d'État. » « Je supplie ces messieurs, dit-il en se tournant vers les juges, de trouver bon que j'explique ce que c'est qu'un crime d'État. Ce n'est pas qu'il ne soit plus habile que nous, mais j'ai eu plus de loisir pour l'examiner. » Un crime d'État, c'est quand on est dans une charge principale, qu'on a le secret du prince et que tout d'un coup, on se met du côté de ses ennemis, qu'on engage toute sa famille dans les mêmes intérêts, qu'on fait ouvrir les portes des villes dont on est gouverneur à l'armée des ennemis, et qu'on les ferme à son véritable maître, qu'on porte dans le parti tous les secrets de l'État. Voilà, messieurs, ce qui s'appelle un crime d'État. Réponse d'autant plus spirituelle et d'autant plus piquante qu'elle était l'histoire même du chancelier et de sa conduite pendant les troubles de la Fronde. Ce procès ne fut jugé qu'au bout de 3 ans, en 1664. L'irrégularité des procédures dirigées contre l'accusé, la longueur du procès, l'acharnement odieux du chancelier, enfin, le temps qui éteint l'envie publique et qui inspire la compassion pour le malheur, tout cela fut favorable à Fouquet, ou du moins lui sauva la vie. Des 22 juges qui opinèrent, il n'y en eut que 9 qui votèrent la mort, et les 13 autres, parmi lesquels il y en avait un qui Gouville, ami de l'accusé, avait fait accepter des présents, opinèrent un bannissement perpétuel que le roi commua en une peine plus dure, la prison à perpétuité. Le chancelier fit exiler l'un des juges nommé Roquesante, qui avait le plus déterminé la chambre de justice à l'indulgence. Le conseiller d'État Guénégaud fut aussi poursuivi et dépouillé de sa plus grande partie de la fortune. Saint-Évremond, ami de Fouquet, fut obligé de s'expatrier. Pélisson, premier commis et confident de l'infortuné surintendant, prit sa défense dans plusieurs mémoires qui sont des modèles d'éloquence. Il fut enveloppé dans sa disgrâce, fut enfermé à la Bastille, où il passa 4 ans et demi pour avoir été fidèle à son maître. Madame de Sévigné s'associa à cette noble fidélité pour le malheur. Les lettres qu'elle écrivait à Monsieur de Pomponne relativement à ce procès attestent la chaleur et la sincérité de son amitié. Louez Dieu, monsieur, écrivait-elle à Pomponne, et le remerciez, notre pauvre ami est sauvé. Il a passé de 13 à la vie de Monsieur d'Ormesson et 9 à celui de Sainte-Hélène. Oh, je suis si aise que je suis hors de moi. L'indolent, le nonchalant, La Fontaine lui-même se ressouvint qu'il était de ce monde quand il apprit la chute et la condamnation de son protecteur. La reconnaissance lui fit méconnaître son intérêt. Il pleura les malheurs de Fouquet dans une élégie noble, belle et touchante, adressée aux nymphes de Vaux, et dans laquelle il osa demander la grâce de son bienfaiteur au monarque irrité. Fouquet, après sa condamnation, fut conduit dans la citadelle de Pignerol avec une escorte de 50 mousquetaires sous les ordres de D'Artagnan. On eut la dureté de lui ôter 2 fidèles domestiques, Pecquet et Lavallée, qui voulaient partager sa prison. On ne voulut jamais non plus permettre à sa femme de l'accompagner. Pendant sa captivité, la religion vint à son secours. Il composait des livres de piété. Il y avait déjà plusieurs années qu'il était renfermé à Pignerol, lorsque le comte de Lauzun fut envoyé prisonnier au même lieu, en punition de ses emportements au sujet de son fameux mariage avec mademoiselle dont le roi n'avait pas voulu approuver la solennité. Jusqu'alors, Fouquet, n'ayant eu aucun commerce avec personne, ignorait absolument ce qui se passait à la cour. Quelle fut sa surprise quand Lauzun lui apprit l'aventure de son mariage. Il ne pouvait le croire et prenait son compagnon d'infortune pour un visionnaire à qui la tête avait tourné dans sa prison. Fouquet supporta ses fers avec courage et résignation. Il mourut dans sa prison le 23 mars 1680, âgé de 65 ans, ayant expié par 16 années de captivité la brillante faveur dont il avait joui. Quelques auteurs ont prétendu, mais sans preuve, qu'il mourut dans le sein de sa famille, entièrement oublié. Gourville l'assure dans ses mémoires, mais son témoignage a été contredit.